Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Reconnue par l'UNESCO, l'Indonésie continue de renforcer sa diplomatie culturelle. MK supprime le seuil de nomination au poste de président et de vice-président. Accueillant la nouvelle année, l'ambassade d'Indonésie à Astana lance des livres électroniques. BKPM a déclaré qu'Apple annoncerait la réalisation d'un investissement en Indonésie la semaine prochaine. Gouvernement provincial de Sumatra Occidental organise des programmes internationaux pour attirer les touristes étrangers. Exportation de Jakarta en novembre 2024 atteindront 1,34 milliards de dollars américains. Voici le journal complet. Suite à la désignation de Réok Ponorogo, Kebaya et Kolintang comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en décembre dernier, le gouvernement indonésien par l'intermédiaire du ministère de la Culture continue de renforcer la diplomatie culturelle lors des forums internationaux et des festivals culturels. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Culture de la République d'Indonésie, Fadlizon, lors d'une conversation avec RRI Voice of Indonesia au ministère de la Culture à Jakarta jeudi 2 janvier. Actuellement, nous menons des programmes avec les communautés Kebaya de Brunei, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande. Nous organisons également l'amitié internationale de Réok au Japon et organisons le festival culturel indonésien aux Pays-Bas, en Thaïlande et au Japon. Collaborer avec des établissements d'enseignement du monde entier pour introduire la culture indonésienne dans les programmes d'études, les ateliers et les échanges universitaires. Fadlizon a ajouté que le ministère de la Culture soutient également les artistes à l'origine de la riche culture indonésienne afin qu'ils puissent faire la performance sur la scène internationale. À l'avenir, le ministère de la Culture proposera d'autres cultures indonésiennes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, entre autres le tempe, le tissage, la machette et le chongklak. La Cour constitutionnelle MK a supprimé le seuil présidentiel comme indiqué dans la loi numéro 7 de 2017 concernant les élections générales. C'est ce qu'a déclaré le juge en chef de la Cour constitutionnelle, Suratoyo, lors de la séance de lecture de la décision au bâtiment de la Cour constitutionnelle à Jakarta, jeudi 2 janvier. Suratoyo a déclaré que le seuil de 20% pour les nominations présidentielles et vice-présidentielles ne peut pas être appliqué, car il est contraire à la Constitution de 1945. En dehors de cela, Suratoyo a déclaré que ce règlement n'avait pas non plus de force juridique contraignante. Cette décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire déposée par un groupe d'étudiants de la faculté de charia et de droit de l'Université islamique d'État UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Cette décision a été saluée par les requérants. La loi numéro 7 de 2017 prévoyait auparavant que les pairs de candidats à la présidence et à la vice-présidence ne pouvait être proposé par des partis politiques ou des combinaisons de partis politiques ayant obtenu au moins 20% des suffrages valables exprimés au niveau national lors des précédentes élections membres de la RPD. L'ambassade d'Indonésie à Astana, qui dessert le Kazakhstan et le Tadjikistan, a célébré trois moments à la fois lors de l'événement du Nouvel An 2025 à Wisma Indonesia, à Astana, Kazakhstan, mardi 31 décembre. Rapporté sur le site internet du ministère indonésien des Affaires étrangères, jeudi 2 janvier, en plus d'accueillir le Nouvel An 2025, l'événement a également eu lieu pour commémorer le 14e anniversaire de l'ambassade d'Indonésie à Astana et a lancé un livre électronique intitulé Mouk Mouk des Steppes et du Pamir, l'histoire des citoyens indonésiens en tant qu'ambassadeur national au Kazakhstan et au Tadjikistan. Le livre serait le premier livre écrit conjointement par des citoyens indonésiens du Kazakhstan et du Tadjikistan. Dans son discours, l'ambassadeur d'Indonésie au Kazakhstan et au Tadjikistan, Fazlur Rahman, a remercié le peuple indonésien et l'équipe de l'ambassade d'Indonésie à Astana, qui travaillent toujours ensemble pour faire progresser la diplomatie indonésienne. Fazlur a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Indonésie, le Kazakhstan et le Tadjikistan ont continué de s'améliorer dans divers secteurs. Il espère que le livre électronique pourra accroître les connaissances sur le voyage et les activités des citoyens indonésiens dans les deux pays ainsi que sur leur contribution à la diplomatie. La célèbre entreprise technologique américaine Apple annoncera la semaine prochaine la réalisation de son investissement en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Investissement et des Affaires en Naval en tant que chef du conseil de coordination des investissements BKPM Rosan Ruslani au palais présidentiel de Jakarta jeudi 2 janvier après avoir assisté à une réunion limitée présidée par le président Prabowo Subianto. Rosan a déclaré que des représentants d'Apple devraient venir en Indonésie et annoncer l'investissement mardi 7 janvier. Rosan expliquait qu'Apple avait envoyé une lettre non officielle tant à lui-même qu'au ministère de l'Industrie. Le 7 janvier, Apple rencontrera le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita. Lors d'une précédente occasion, Rosan a révélé que l'investissement d'Apple en Indonésie prendrait la forme de la production de composants pour son smartphone, l'iPhone. Cet investissement marque la circulation du dernier téléphone portable Apple, à savoir l'iPhone 16 sur le marché indonésien. Le gouvernement provincial de Sumatra Occidental organise le programme touristique à l'échelle internationale visant à augmenter le nombre de visites touristiques étrangères à Ranah Minang en 2025. Cité par Antara, jeudi 2 janvier, le chef de l'Office du tourisme de la province de Sumatra Occidental, Nuhur Budianda, a déclaré que l'ordre du jour était la course exotique de Mandé en juillet 2025 et le sommet mondial des entrepreneurs islamiques le 10 septembre 2025. En outre, le gouvernement provincial de Sumatra Occidental fait également l'inventaire de divers programmes nationaux et locaux susceptibles d'attirer des visites touristiques de divers pays. Woody espère que les différents programmes touristiques en préparation actuellement par l'Office de tourisme de Sumatra Occidental pourront augmenter le niveau des visites touristiques nationales et internationales. Pendant ce temps, le chef de l'Agence centrale de statistiques BPS de la province de Sumatra Occidental, Sugeng Arianto, a déclaré qu'il y avait plus de 6000 visites touristiques étrangères à l'ouest de Sumatra via l'aéroport international de Minangkabau en novembre 2024. La plupart des touristes qui viennent ou voyagent à Sumatra Occidental viennent de Malaisie, de Singapour, d'Australie, de Chine et d'Angleterre. L'Agence centrale des statistiques BPS du DKI Jakarta a révélé que la valeur des exportations de Jakarta en novembre 2024 atteindrait 1,34 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 21,7 billions de rupiah. Cité par Antara, le chef du BPS DKI Jakarta, Nur Hasanuddin à Jakarta, a déclaré jeudi 2 janvier que ce chiffre avait augmenté de 34,75% par rapport à la même période en 2023. Le secteur d'exportation le plus élevé de Jakarta est l'industrie de transformation, à savoir 95,59%, tandis que le secteur agricole est de 4,22%. Hassanuddin a ajouté que la Chine est le principal pays de destination des exportations, atteignant 14,36%, suivi par des pays tels que les États-Unis et plusieurs pays de l'ASEAN. Il a déclaré que ces pays étaient les principaux pays de destination des exportations en novembre 2024. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Iran et trois pays européens vont discuter d'un accord sur le nucléaire ». Avec moi, Audrey. Chargé tard, l'Iran rencontrera trois pays européens partis à l'accord nucléaire initial le 13 janvier 2025, selon l'agence de presse ISNA, citant le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi. Des consultations entre l'Iran et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni auront lieu à Genève, en Suisse. Les négociations sur le programme nucléaire entre l'Iran et trois pays européens ont eu lieu pour la dernière fois le 29 novembre de l'année dernière à Genève après une interruption de 2 ans. Les diplomates britanniques, allemands, français et iraniens se sont rencontrés pour discuter du programme nucléaire de Téhéran et des sanctions contre ce pays. Une semaine plus tôt, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA adoptait des résolutions initiées par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Cette résolution a été critiquée par Téhéran comme une mesure anti-iranienne car elle ne tenait pas compte des résultats de la visite du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, en Iran. Grossi est rendu en Iran les 14 et 15 novembre pour s'entretenir avec les dirigeants iraniens et inspecter les installations nucléaires iraniennes de Fordo et Natanz. L'objectif est de déterminer la mise en œuvre du plan d'action global commun JCPOA concernant le programme nucléaire iranien. Le président iranien Massoud Pezeshkian, lors de sa rencontre avec Grossi, a souligné que l'Iran n'a jamais développé et ne développera pas d'armes nucléaires. Les analystes considèrent les négociations de fin novembre de l'année dernière comme la dernière chance de relancer la diplomatie sur le programme nucléaire iranien avant le retour au pouvoir de Donald Trump plus tôt cette année. Le plan d'action commun JCPOA a été signé en 2015 entre l'Iran, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et les États-Unis, ainsi que l'Union européenne. Cet accord prévoit une réduction des sanctions internationales en échange de restrictions sur le programme nucléaire iranien. Cependant, les États-Unis se sont retirés du JCPOA en 2018 et ont réimposer des sanctions à Téhéran, qui a alors annoncé une réduction progressive de ses engagements en matière de recherche nucléaire et d'enrichissement de l'uranium. Il devient difficile d'empêcher les pays de développer des armes nucléaires lorsque les États dotés d'armes nucléaires et les alliances nucléaires insistent sur le fait que ces armes de massacre constituent un élément essentiel de leur sécurité. Cependant, tous les pays devraient reconnaître que continuer à compter sur les armes de destruction massive ne fera que rendre le monde moins sûr. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017 offre une voie à suivre pour rejeter les armes nucléaires une fois pour toutes et de manière vérifiée. Tous les pays doivent adhérer à cet accord sans délai. Nous espérons que la réunion du 13 janvier produira des résultats positifs dans l'intérêt d'un monde sûr et pacifique. Monsieur Jouetard, c'est tout le commentaire.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va suivre l'histoire aujourd'hui. Je commence avec les événements du 3 janvier 1920, le tremblement de terre dans le centre du Mexique. Le tremblement de terre de magnitude de 6,3 jusqu'à 6,4 a secoué une partie des États mexicains de Puebla et de Veracruz dans la soirée du 3 janvier 1920. L'épicentre du séisme est situé dans la pointe de la ceinture volcanique transmexicaine où se trouve une faille de plaque à cet endroit. Ce tremblement de terre a tué jusqu'à 648 personnes. De nombreuses victimes sont mortes à la suite du glissement de terrain qui ont frappé les colonies situées le long des rivières Huitzilapa et Pescado. Le 3 janvier 1993, la signature du deuxième traité START. Le deuxième traité de réduction des armements stratégiques, ou START, est un accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie visant à réduire et limiter les armements stratégiques. Cet accord a été signé par le président des États-Unis, George Bush, et le président russe, Boris Eltsin, à Moscou, en Russie le 3 janvier 1993. Le deuxième traité START interdisant l'utilisation de MIRV sur les missiles balistiques intercontinentaux. Le MIRV est en charge utile de missiles contenant plusieurs ogives, chacune pouvant être dirigée pour atteindre une cible différente. Thank you. Le 3 janvier 2004, un avion de Flash Airlines s'écrase en mer Rouge. Le 3 janvier 2004, un Boeing 737 appartenant à la compagnie aérienne Egyptian Flash Airlines s'écrase peu après son décollage en Égypte. Le vol 604 de Flash Airlines s'est écrasé dans la mer Rouge peu après son décollage de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh à destination de l'aéroport international Charles de Gaulle à Paris en France. Cet accident a tué 135 passagers, donc certains touristes français et 13 membres d'équipage. Il s'agit de l'un des accidents d'avion les plus meurtriers survenus en Égypte. Chers amis, c'était l'histoire jeudi de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Hari nan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil meraju berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama ku mengerti dirimu jadi misteri yang kian terperangi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati. Ternyata telah menjadi.
C'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est le retard pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, et pour le titre... Le gouvernement indonésien a préparé 90 000 tonnes de semences de qualité supérieure pour augmenter la productivité agricole. Le vice-ministre de l'Agriculture, Sudaryono, a déclaré que son parti préparait 90 000 tonnes de semences de riz et de maïs de qualité supérieure pour stimuler l'augmentation de la productivité agricole en 2025. Le nombre de semences doit couvrir 3,7 millions d'hectares de terre en 2025. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture dans un communiqué à Jakarta, mercredi 1er janvier, cité par Antara, jeudi 2 janvier. Le vice-ministre de l'Agriculture a déclaré que cette mesure avait été prise pour augmenter la productivité alimentaire nationale et soutenir le programme du gouvernement visant à réduire les importations de riz. Le vice-ministre de l'Agriculture, Sudaryono, a également déclaré que la fourniture de semences de qualité supérieure se concentrerait sur les zones à faible indice de plantation. Selon le vice-ministre de l'Agriculture, cela vise à augmenter les rendements des récoltes et à soutenir la sécurité alimentaire dans toute l'Indonésie. En 2025, le ministère de l'Agriculture a budgétisé plus de 3 millions d'hectares pour les semences de riz, tandis que le reste sera préparé pour les semences de maïs. Sudaryono l'a souligné lors de la réunion de coordination limitée pour le secteur alimentaire à Semarang, Jawa Central, le 30 décembre dernier. Sudaryono a également ajouté que fournir des semences de qualité supérieure pour augmenter la productivité du riz de 15 à 20%. Par conséquent, le ministère de l'Agriculture se concentre sur la distribution des semences de qualité aux agriculteurs de toute l'Indonésie. En dehors de cela, le vice-ministre de l'Agriculture a également encouragé les entreprises publiques de logistique à absorber les récoltes des agriculteurs, en particulier dans la province de Jawa Central, qui constitue l'un des paniers alimentaires nationaux. Selon lui, l'absorption des récoltes est très importante pour maintenir la stabilité des prix alimentaires et protéger les agriculteurs des fluctuations des prix après récolte. Pendant ce temps, le ministre coordinateur de l'alimentation, Zulkifli Hasan, a révélé qu'en 2025, l'Indonésie n'emporterait pas un certain nombre d'ingrédients alimentaires, notamment le riz, le sel et le sucre. Selon Zulkifli Hasan, l'absorption du riz par les agriculteurs sera entièrement prise en charge par le corps logistique ou Bulog, conformément aux instructions du président. Grâce à cette mesure, le gouvernement est optimiste quant à sa capacité à accroître la sécurité alimentaire de l'Indonésie, à réduire sa dépendance à l'égard des importations et à soutenir le bien-être des agriculteurs dans tout le pays. C'est Zeritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Thank you. bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya? Oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di bibir? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des magazines culturels avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter la plage de Takisung, du sud de Kalimantan. Chers amis, le marché flottant est un favori des touristes dans le sud du Kalimantan. Outre le marché flottant, le Kalimantan du Sud possède une variété d'attractions touristiques intéressantes, en particulier pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme balnéaire, l'une des destinations touristiques balnéaires recommandées dans le sud du Kalimantan oriental, c'est la plage de Takisum. Cette plage a une superficie de 0,65 hectares avec une longueur de 85 mètres et une largeur de 80 mètres. En voyageant ici, vous pourrez pas seulement profiter de la beauté naturelle, mais aussi des activités de la vie des pêcheurs depuis la ville de Banjarbaru, la capitale du Kalimantan du Sud. La distance est d'environ 62,4 km pour un temps de trajet d'environ 1,5 heures. Chers amis, pour entrer et profiter de la beauté de la plage de Takisum, un billet d'entrée de 5000 de roupies vous sera facturé en semaine et de 10 000 de roupies les jours fériés. Une fois entré dans cette zone touristique, vous serez émerveillé par sa beauté naturelle, où la plage est entourée de cocotiers et de sable brunâtre. Ici, vous pouvez nager confortablement, car la plage de Takisum a des vagues relativement petites. En plus de la baignade, vous pouvez traverser l'île de Datu en utilisant un bateau klotok. L'île Datu est une petite île en face de la plage. Chargé tard sur la place de Takisum. Diverses attractions sont également proposées. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire le tour de la plage tout en faisant monter l'adrénaline, vous pouvez louer une mini-moto de course. Le prix de location d'une moto est d'environ 50 000 de roupies par demi-heure. Vous pouvez également jouer au bateau banane. Pour profiter du jeu, il vous sera facturé un ticket de 20 000 de roupies par personne pour les adultes ou de 15 000 de roupies pour les enfants. Cette zone touristique est également dotée de diverses installations telles que des restaurants, des parkings, des toilettes et des hébergements. Pour ce jeu d'art, c'est tout, le magazine culturel.
Kamulah evening. Segala denyut nadi memanggil. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour la mission de l'Indonésie en couleur intitulée Innovation de Boba Bin, équipe étudiant de l'UGM avec Maudry. Ce jour-là, les étudiants de l'Université Gadjah Mada UGM ont une fois de plus obtenu de brillants résultats. L'équipe étudiante de l'UGM a remporté un prix lors du sommet international de la jeunesse IYS 2024. On sait que l'IYS 2024 est un concours international de rédaction et de présentation scientifique organisé par l'Université Putra de Malaisie les 9 et 10 novembre 2024. Lors de cet événement prestigieux, l'équipe étudiante de l'Université Gadjah Mada a remporté une médaille d'argent grâce à son travail innovant intitulé Boba Bin, une boisson innovante aux haricots rouges instantanés pour la prévention de l'anémie chez les adolescents. Boba Bin serait une solution nutritionnelle à base de haricots rouges spécialement conçue pour prévenir l'anémie chez les adolescents. Ce travail combine des ingrédients naturels tels que les haricots rouges qui sont connus pour être une riche source de fer utile pour augmenter l'apport quotidien en fer. Ce jeter au départ, l'idée de ce travail innovant est née du nombre élevé de personnes souffrant d'anémie en Indonésie, en particulier parmi les jeunes femmes. Souvent, les pilules ou les suppléments stimulant le sang sont considérés comme moins efficaces pour répondre aux besoins en fer. En effet, certaines personnes ont des difficultés à consommer des médicaments sous forme de gélules. Pendant le concours, l'équipe a vécu de nombreuses nouvelles expériences, dont l'une consistait à présenter son travail devant les juges et des visiteurs internationaux. Lors de l'événement, l'équipe a également fait une démonstration du produit directement sous la forme d'un plat boba bean. Ce travail scientifique a été apprécié par le jury international grâce à son approche créative et fondée sur la recherche scientifique. Cette innovation boba bean soutient également la réalisation des objectifs de développement durable ODD 3, à savoir la santé et le bien-être. L'équipe espère que boba bean pourra être développé davantage et offrir des avantages plus larges à la société, en remportant une médaille d'argent au Sommet international de la jeunesse 2024. L'équipe de l'UGM a non seulement rendu l'université fière, mais a également inspiré la jeune génération indonésienne à continuer à travailler et à innover sur la scène internationale. Bon, ça, je vais dire, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion étrangère de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz. et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme tronchant, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson typique de la tribu Dayak du Kalimantan occidental intitulée Patamuan Dara Basule, qui signifie réunion des filles Basule. Ce jeu tard accompagné des accents de sap et de battements du Gandang Tatau, la chanson Patamuan Dara Basule raconte l'histoire de la première impression d'une jeune fille lorsqu'elle en rencontre un homme qui la fascine. Le visage de l'homme était beau, comme celui d'un dieu descendu du ciel. Pour changer de temps, voici la chanson intitulée « Patamuan Dara Basule » chantée par Nofi Suara. Bonne écoute.
Madi baru batamu,
aku boleh nilai kau, ujak tarikan sama.
chère Jolita, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
From Jakarta, Indonesia, here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.